Marco Valdo ou les saisons en ville, par Italo Calvino, troisième cassette, deuxième face, page 152. Quelquefois, pour passer le temps, Marco Valdo suivait un chat. C'était entre 1h et 3h, alors que tout le personnel, sauf Marco Valdo, était rentré chez lui pour déjeuner. Marco Valdo emportait son repas dans une serviette, mettait le couvert sur le coin d'une des caisses du magasin, mangeait tranquillement, fumait un cigare et flânait çà et là, seul et oisif, en attendant de reprendre le travail. Durant ces heures-là, un chat qui passait le nez par une fenêtre était toujours une compagnie bienvenue et un guide pour de nouvelles explorations. Il avait fait amitié avec un chat tigré, bien nourri, ruban bleu clair autour du cou, logeant sûrement chez les personnes aisées. Ce chat avait en commun avec Marco Valdo l'habitude de faire un tour aussitôt après le déjeuner. Il en acquit naturellement une amitié. En suivant son ami chat, Marco Valdo s'était mis à tout regarder comme au travers des yeux ronds de l'animal, et même s'il s'agissait des alentours familiers de l'ASBAV, il les voyait sous un jour différent, comme des décors d'histoire de chat que ne pouvaient seulement parcourir que des pattes feutrées et légères. Bien que le quartier semblât pauvre en chats, chaque jour, lors de ses promenades, Marco Valdo faisait connaissance de quelques nouveaux museaux. Et il suffisait d'un miaulement, d'un ébrouement, d'un pelage se hérissant sur une échine arquée pour lui faire deviner les liens, les intrigues et les rivalités qui étaient les leurs. Dans ces moments-là, il croyait être déjà dans le secret de la société des félins. Et voilà qu'il se sentait surveillé par des pupilles qui devenaient des fentes, guetté par des moustaches dressées. Et tous les chats qui l'entouraient se tenaient assis, impénétrables comme des sphinx, le triangle rose du nez convergeant sur le triangle noir des lèvres. La seule chose qui bougeait était le bout des oreilles, avec un frémissement pareil à celui d'un radar. On finissait par arriver au fond d'un très étroit passage entre les murs aveugles, et en regardant autour de lui, Marco Valdo s'apercevait que tous les chats qu'il avait amenés jusque-là, y compris son ami tigré, avaient disparu tous ensemble, on ne savait de quel côté, le laissant seul. Le royaume avait des territoires, des rites, des coutumes qu'il ne lui était pas permis de connaître. En compensation, de la ville des chats s'ouvraient des horizons insoupçonnés sur la ville des hommes. Et un jour, ce fut justement le chat tigré qui lui fit découvrir le grand restaurant Biarritz. Qui voulait voir le restaurant Biarritz n'avait qu'à prendre la taille d'un chat, ou du moins marcher à quatre pattes. Le chat et l'homme tournaient de la sorte autour d'une coupole au bas de laquelle se voyaient de petites fenêtres rectangulaires. C'étaient des lucarnes à vasisdas ouvertes et qui aéraient et éclairaient une grande salle luxueuse. À l'exemple du chat, Marco Valdo regarda en bas. Au son des violons de ziganes, des perdrix et des cailles dorées valsaient sur des plateaux d'argent tenus en équilibre par les mains gantées de blanc des serveurs en habit. Ou plus exactement, au-dessus des perdrix et des faisans valsaient les plateaux et au-dessus des plateaux les gants blancs avec le parquet miroitant en équilibre instable sur les escarpins vernis des serveurs, le parquet miroitant d'où pendaient des palmiers nains en pot, des nappes, des cristaux, des seaux de vermeil pareils à des cloches avec une bouteille de champagne pour battant. Tout cela vu à l'envers parce que, par crainte d'être vu, Marco Valdo ne voulait pas passer la tête à la fenêtre et se contentait de regarder la salle reflétée à l'envers dans la vitre inclinée. Mais plus que les lucarnes de la grande salle, ce qui intéressait surtout le chat, c'était celle des cuisines. En regardant dans la salle, on y voyait de loin et comme transfiguré ce qui dans les cuisines était bien réel et à portée de patte, un oiseau plumé ou un poisson frais. Et c'était justement du côté des cuisines que le chat cherchait à entraîner Marco Valdo, soit qu'il y fût poussé par un sentiment désintéressé d'amitié, soit plutôt qu'il comptât sur le concours de l'homme pour une de ses expéditions. Marco Valdo, au contraire, ne voulait pas quitter son observatoire. D'abord parce qu'il était fasciné par le luxe de la grande salle, ensuite parce que là, quelque chose avait attiré son attention. Tant et si bien que, vainquant sa peur d'être vu, il passait constamment la tête par la lucarne pour regarder en bas. Dans le milieu de la salle, juste sous cette espèce de lucarne, il y avait un petit vivier de verre, une espèce d'aquarium dans lequel nageaient de grosses truites. Un client de marque, vêtu de noir, barbe noire, crâne chauve et brillant, s'en approcha. Un vieux serveur en habit le suivait, tenant à la main un petit filet comme s'il allait à la chasse aux papillons. Le monsieur en noir regarda les truites d'un air grave, fort attentivement, puis il leva la main et d'un geste lent et solennel en désigna une. Le serveur plongea le petit filet dans le vivier, poursuivit la truite en question, la captura et se dirigea vers les cuisines, portant devant lui, comme une lance, le filet où le poisson se débattait. Le monsieur en noir, grave comme un magistrat qui vient de prononcer une sentence capitale, alla s'asseoir dans l'attente que la truite revînt sous forme de truite meunière. Si je trouvais moyen de jeter une ligne d'ici et de faire mordre une de ces truites, se dit Marco Valdo, on ne pourrait pas m'accuser de vol, tout au plus de pêche non autorisée. Et sans prêter attention au miaulement qu'il appelait du côté de la cuisine, il alla chercher son matériel de pêche. Personne dans la grande salle bondée du restaurant Biarritz ne vit le mince et long fil que complétaient un hameçon et un appât descendre jusque dans le vivier. Mais les poissons, à coup sûr, virent l'appât et se jetèrent dessus. Dans la mêlée, une truite réussit à mordre l'asticot. Elle commença aussitôt à monter, sortit de l'eau dans un frétillement argenté, voltigea au-dessus des tables dressées, des chariots de hors-d'œuvre, de la flamme bleu clair des fourneaux à crêpes usettes, et disparut par la lucarne. Marco Valdo avait tiré sur sa canne à pêche avec la rapidité d'un pêcheur éprouvé, si bien que le poisson rebondit sur ses épaules. La truite avait à peine touché terre que déjà le chat s'élançait. Et c'est entre les dents du félin qu'elle perdit le peu de vie qui lui restait encore. Marco Valdo, qui venait de lâcher sa canne à pêche pour courir ramasser le poisson, se le vit emporté sous le nez avec l'hameçon et tout. Il mit aussitôt le pied sur la canne à pêche, mais la secousse fut si violente qu'il ne lui resta seulement que la dite canne à pêche, cependant que le chat s'enfuyait avec le poisson qui traînait devant lui le fil de la ligne. Saleté de matou, il avait disparu. Mais cette fois, il ne lui échapperait pas. Il y avait ce long fil qui le suivait et indiquait le chemin qu'il avait pris. Bien qu'ayant perdu le chat de vue, Marco Valdo suivait le bout du fil. Voilà qu'il montait le long d'un mur, passait par-dessus un balcon, serpentait sous une porte cochère et disparaissait dans un sous-sol. Marco Valdo, à mesure qu'il avançait, découvrait des lieux et des endroits de plus en plus faits pour les chats, grimpait sur des appentis, enjambait des balustrades, parvenait toujours à repérer du coin de l'œil, peut-être une seconde avant qu'elle disparût, cette trace mobile qui lui indiquait le chemin qu'avait pris le voleur. Maintenant, le fil serpente le long d'un trottoir, au milieu des passants, et Marco Valdo, courant derrière lui, est sur le point de s'en saisir. Il se jette à plat ventre et voilà qu'il l'attrape. Il réussit à prendre le bout du fil avant qu'il ne glisse entre les barreaux d'une grille. Derrière cette grille à moitié rouillée et deux bouts de mur envahis de plantes grimpantes, il y avait un jardinet inculte avec au fond une petite villa qui semblait abandonnée. Un tapis de feuilles mortes recouvrait l'allée et d'autres feuilles mortes encore s'entassaient sous les branches de deux platanes, formant de petites montagnes sur les parterres. Une couche de feuilles flottait sur l'eau verte d'un bassin. Tout autour du jardin s'élevaient des édifices énormes, des gratte-ciel avec des milliers de fenêtres, pareils à autant d'yeux regardant d'un air réprobateur ce petit carré de deux arbres, quelques tuiles et tellement de feuilles mortes qui avaient survécu au beau milieu d'un quartier bruyant où le trafic était intense. Et dans ce jardin, perché sur des colonnes, étendu sur les feuilles mortes des parterres, grimpé sur des troncs d'arbres ou des gouttières, immobile sur leurs quatre pattes avec la queue en point d'interrogation, assis et occupé à se laver le museau, il y avait des chats. Des chats tigrés, des chats noirs, des chats blancs, des chats tachetés, des angoras, des persans, des chats comme il faut et des chats errants, des chats parfumés et des chats teigneux. Marco Valdo comprit qu'il était finalement arrivé au cœur du royaume des chats, dans leur île secrète. et d'émotion, il en avait presque oublié son poisson. Il était resté pendu par la ligne à la branche d'un arbre, le poisson, hors de portée des sauts des chats. Il avait dû tomber de la bouche de son voleur par suite d'un mouvement maladroit de celui-ci pour le défendre des autres, ou peut-être bien pour l'exhiber comme une proie extraordinaire. Le fil s'était accroché et Marco Valdo, malgré toutes les secousses qu'il lui donnait, ne parvenait pas à le dégager. Pendant ce temps, une furieuse bagarre avait éclaté parmi les chats pour attraper ce poisson impossible à atteindre, ou plutôt pour avoir le droit d'essayer de l'attraper. Chacun voulait empêcher les autres de sauter. Ils fonçaient l'un contre l'autre, se battaient en l'air, roulaient agrippés l'un à l'autre, avec des sifflements, des gémissements, des ébrouements, des miaulements atroces. Et finalement, une bataille générale se déchaîna dans un tourbillonnement de feuilles mortes crépitantes. Marco Valdo, après de nombreuses secousses inutiles, sentait maintenant que la ligne s'était dégagée. Mais s'il se gardait bien de tirer, la truite serait tombée au beau milieu de cette mêlée de félins enragés. Ce fut à ce moment que commença de se déverser du haut des murs du jardin une étrange pluie, arêtes, têtes et queues de poissons, et même des morceaux de mou et de fraissures. Aussitôt, les chats oublièrent la truite toujours accrochée et se jetèrent sur ces nouveaux morceaux. Pour Marco Valdo, c'était le bon moment pour tirer le fil et récupérer le poisson. Pour Marco Valdo, c'était le bon moment pour tirer le fil et récupérer le poisson. Mais avant même qu'il ait eu le temps de bouger, de derrière une persienne de la villa sortirent deux mains jaunes et sèches. L'une brandissait une paire de ciseaux, l'autre une poêle. La main qui tenait les ciseaux se leva, s'approchant de la truite. La main qui tenait la poêle se plaça sous elle. Les ciseaux coupèrent le fil. La truite tomba dans la poêle, les mains, les ciseaux, la poêle disparut, la persienne se referma, le tout en l'espace d'une seconde. Marco Valdo n'y comprenait plus rien. « Vous aussi, vous êtes un ami des chats ?» Une voix derrière lui le fit se retourner. Il était entouré de femmes, certaines très très âgées, portant des chapeaux démodés, d'autres plus jeunes, l'air de vieilles filles, toutes ayant à la main ou dans leur sac des pochettes de papier contenant des restes de viande ou de poisson, quelques-unes ayant même apporté du lait dans de petits récipients. « Pouvez-vous m'aider à jeter ce paquet de l'autre côté de la grille pour ces pauvres petites bêtes ?» Toutes les amies des chats se retrouvaient à cette heure-là autour du jardin aux feuilles mortes pour donner à manger à leurs protégés. « Mais dites voir, « pourquoi que ces chats y restent tous ici ?» demanda Marco Valdo. « Où voulez-vous qu'ils aillent ? Il n'y a plus que ce jardin. Même les chats des autres quartiers viennent ici dans un rayon de plusieurs kilomètres. »« Et même les oiseaux, » ajouta une autre, « ils en sont réduits à vivre par centaines et centaines sur ces quelques arbres. »« Et les grenouilles, elles sont toutes dans ce bassin et la nuit, elles coassent. » On les entend même du septième étage des maisons voisines. « Mais à qui elle est, cette petite villa ?» demanda Marco Valdo. Maintenant, devant la grille, il n'y avait plus seulement ces femmes, mais aussi d'autres personnes. Le pompiste d'en face, des gars d'une usine, le facteur, le marchand de fruits et légumes, quelques passants. Et tous, hommes et femmes, ne se firent pas prier pour lui répondre. Chacun voulait donner son opinion, comme toujours, quand il s'agit d'un sujet mystérieux et très discuté. C'est à une marquise. Elle y habite, mais on la voit jamais. Les promoteurs lui ont offert des millions et des millions pour ce petit bout de terrain, mais elle veut pas vendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle en fasse des millions, une petite vieille comme elle qui est seule au monde? Elle aime mieux garder sa maison, même si elle tombe en ruine, plutôt que de déménager. C'est la seule surface non bâtie du centre de la ville. Elle augmente de valeur chaque année. Ils lui ont fait ses offres. Oh, pas que des offres, non. Tout le reste aussi. Intimidation, menace, persécution. Vous savez, les promoteurs, hein. Et elle cède pas. Elle cède pas. Elle résiste depuis des années. Ah, c'est une sainte. Où qu'elles iraient sans elle, ces pauvres petites bêtes. Oh. Vous pensez si elle s'en fiche de ces petites bêtes, cette vieille radine? Est-ce que vous l'avez jamais vu leur donner quelque chose à manger? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle leur donne au chat, puisqu'elle n'a rien pour elle? C'est la dernière descendante d'une grande famille qui est tombée dans la misère. Elle a horreur des chats. Je l'ai vu les poursuivre à coups de parapluie. Parce qu'ils piétinaient les fleurs de ses parterres. Des fleurs. Ce jardin, je l'ai toujours vu plein de mauvaises herbes. Marco Valdo se rendit compte que les opinions concernant la vieille marquise divergeaient profondément. D'aucuns la voyaient comme une créature angélique, d'autres comme une personne avare et égoïste. Et c'est pareil même pour les petits oiseaux, elle leur donne jamais une miette de pain. Elle leur donne l'hospitalité comme aux autres, ça vous paraît peu? Elle la donne aussi aux moustiques, ils viennent tous d'ici, de ce bassin. L'été, ces moustiques, ils vous dévorent, littéralement, et c'est la faute de cette sacrée marquise. Et les rats? Cette ville-là, c'est un vrai nid à rats. Ils font leur trou sous les feuilles mortes, et la nuit, ils sortent. Oh, pour ce qui est des rats, les chats s'en chargent. Oh, vos chats, si on doit compter sur eux. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à leur reprocher aux chats? Ici, la discussion dégénéra en une querelle générale. L'autorité devrait intervenir, saisir la villa, criait l'un. Et de quel droit? Protestait un autre. Dans un quartier moderne comme le nôtre, un taudis pareil, ça devrait être interdit. Mais moi, mon appartement, je l'ai justement choisi parce qu'il donnait sur ce petit coin de verdure. Allons donc. Pensez un peu au beau gratte-ciel qu'ils y pourraient bâtir. Marco Valdo aussi avait quelque chose à dire, mais il n'en trouvait pas l'occasion. Finalement, il s'exclama tout d'un trait. « La marquise m'a volé une truite !» Cette nouvelle inattendue fournit de nouveaux arguments aux détracteurs de la vieille dame, mais ses partisans y virent au contraire la preuve de l'indigence dans laquelle se trouvait la malheureuse aristocrate. Les uns et les autres furent d'accord sur le fait que Marco Valdo devait aller frapper à sa porte et lui demander des explications. On ne comprenait pas bien si la grille était ouverte ou fermée à clé. Quoi qu'il en soit, elle s'ouvrait en poussant avec un grincement lamentable. Marco Valdo se fraya un chemin entre les feuilles et les chats, gravit les marches du perron et frappa très fort à la porte. La persienne d'une des fenêtres, la même d'où était sortie la poêle, s'écarta un tout petit peu et Marco Valdo entrevit un œil rond et bleu, une touffe de cheveux teints d'une couleur indéfinissable et une main sèche, sèche. Une voix disait « Qui est là? Qui frappe ?» Et il l'entendit en même temps que lui parvenait une odeur d'huile frite. « Moi, madame la marquise, je suis le monsieur de la truite, » expliqua Marco Valdo. « Je voudrais pas vous déranger, c'était seulement pour vous dire que la truite, des fois que vous le sauriez pas, c'est à moi que ce chat l'avait volé, vu que c'était moi qui l'avais pêché, du reste la ligne. « Les chats! Toujours les chats !» dit d'une voix perçante et un peu nasillarde la marquise cachée derrière la persienne. « Tous mes malheurs viennent des chats, personne ne peut s'imaginer ce que c'est. Prisonnière, nuit et jour, de ces sales bêtes. Et avec toutes les saletés que les gens jettent par-dessus le mur pour me faire enrager. Mais ma truite, votre truite, qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, moi, de votre truite ?» dit la marquise en criant presque, comme si elle voulait couvrir le grésillement de l'huile dans la poêle qui sortait de la fenêtre avec une bonne odeur de poisson frit. « Comment voulez-vous que je puisse comprendre quelque chose avec tout ce qui me tombe dessus à la maison ?»« Oui, oui, mais la truite, vous l'avez prise ou vous l'avez pas prise ?»« Avec tous les dégâts comme font les chats, ah, il faudrait voir ça, je ne réponds plus de rien si je devais vous dire tout ce que j'ai perdu, avec tous ces chats qui occupent ma maison et mon jardin depuis des années. » Ma vie est à la merci de ces bêtes. Allez donc trouver les propriétaires pour leur demander de rembourser tout ça. Tous ces dégâts. Des dégâts. Pire, une vie détruite et moi, prisonnière ici, sans seulement pouvoir faire deux pas. Mais faites excuse. Qu'est-ce qui vous oblige à rester? Dans l'entrebâillement de la persienne, on apercevait soit un œil rond et bleu, soit une bouche avec deux dents en avant. Et durant un instant, on vit tout le visage. Marco Valdo eut l'impression qu'il ressemblait vaguement à celui d'un chat.
Ils me gardent prisonnière, les chats. Oh, comme je m'en dirais. Je sais pas ce que je donnerais pour un petit appartement bien à moi, dans une maison moderne, propre. Mais je peux pas sortir. Ils me suivent. Ils se mettent en travers de mon chemin. Ils me font tomber.
La voix devint un murmure comme si elle révélait un secret.
Ils ont peur que je vende le terrain. Ils ne me quittent pas. Ils ne me permettent pas. Il faudrait les voir, les chats, quand les promoteurs viennent me faire une proposition. Ils s'en mêlent, sortent leurs griffes, ils ont même fait fuir un notaire. Une fois, j'avais un contrat, j'allais signer. Ils sont entrés en trompe par la fenêtre, ils ont renversé l'encrier et déchiré tout le contrat.
Marco Valdo se souvint brusquement de l'heure, du magasin, du chef magasinier. Il s'en alla, marchant sur les feuilles mortes, sur la pointe des pieds, cependant que la voix continuait à s'entendre, au travers des lattes de la persienne, comme enveloppée d'un nuage d'huile frite.
Ils m'ont même griffé, j'en ai encore la marque. Abandonné, oui, abandonné, à la merci de ces démons.
Vint l'hiver. Une floraison de flocons blancs ornait les branches, les chapiteaux des colonnes et la queue des chats. Sous la neige, les feuilles mortes devenaient de la boue. Les chats, on les voyait peu, les amis des chats, moins encore. Les paquets d'arêtes n'étaient remis qu'aux chats qui se présentaient à domicile. Depuis un bon bout de temps, nul n'avait revu la marquise. Aucune fumée ne sortait plus de la cheminée de la petite villa. Un jour où il avait neigé, des chats étaient revenus en grand nombre dans le jardin, comme si c'était le printemps, et ils miaulaient comme par une nuit de lune. Les voisins comprirent qu'il était arrivé quelque chose. Ils allèrent frapper à la porte de la marquise. Elle ne répondit pas. Elle était morte. Au printemps, des promoteurs avaient ouvert un grand chantier sur l'emplacement du jardin. Les bulldozers avaient creusé à une grande profondeur pour faire place aux fondations. Le ciment coulait dans les armatures de fer. Une très grande grue apportait des traverses aux ouvriers qui construisaient les échafaudages. Mais comment pouvait-on travailler ? Les chats se promenaient sur tous les échafaudages, faisaient tomber des briques et des seaux de mortier, se battaient au milieu des tas de sable. Quand on allait dresser une armature, on trouvait un chat perché à son sommet qui soufflait de rage. Des matous plus sournois grimpaient sur le dos des maçons en ayant l'air de vouloir ronronner et il n'y avait plus moyen de les chasser. Et les oiseaux continuaient à faire leur nid dans tous les treillis métalliques. La cabine de la grue ressemblait à une volière. Et on ne pouvait pas aller chercher un seau d'eau sans leur apporter plein de grenouilles qui coassaient et sautaient. Hiver. Chapitre 20. Les enfants du Père Noël. Il n'est pas d'époque de l'année plus agréable ni meilleure pour le monde du commerce et de l'industrie que celle de Noël et les semaines qui le précèdent. On entend monter de la rue le son chevrotant des cornemuses et des sociétés anonymes occupées la veille encore à calculer froidement le chiffre d'affaires et les dividendes ouvrent alors leur cœur aux affections et aux sourires. L'unique souci des conseils d'administration est à présent de donner de la joie à leurs prochains en envoyant des cadeaux accompagnés de vœux aussi bien à des sociétés de la même branche qu'à des particuliers. Chaque société se fait un devoir d'acheter un stock d'articles à une seconde société pour en faire cadeau à d'autres sociétés. Les fenêtres des dites sociétés restent éclairées fort avant dans la nuit, spécialement celles du magasin d'emballage, où le personnel fait des heures supplémentaires pour ficeler des paquets et clouer des caisses. Par-delà les vitres embuées, sur les trottoirs recouverts d'une mince croûte de glace, s'avancent les joueurs de cornemuse descendus pour les fêtes de sombres et mystérieuses montagnes. Ils font halte au carrefour du centre, un peu ébloui par l'éclat des lumières, par les vitrines surabondamment décorées. Et tête baissée, ils se mettent à souffler dans leurs instruments. Le son de cette musique réussit à apaiser les graves discussions d'intérêt des hommes d'affaires, lesquelles font place à une autre sorte de rivalité. Qui présentera de la façon la plus plaisante le cadeau le plus remarquable et le plus original ? À la SBAV cette année-là, le service des relations publiques proposa que les étrennes destinées aux personnes les plus importantes leur fussent remises à domicile par un coursier déguisé en Père Noël. L'idée suscita l'approbation générale des dirigeants. On acheta un costume complet de Père Noël. Barbe blanche, bonnet et houppelande rouge bordé de fausses fourrures blanches, grandes bottes. On essaya le tout à différents garçons de course pour voir auquel cela irait le mieux. Mais l'un était trop petit et sa barbe traînait par terre. Un autre trop grand n'entrait pas dans la houppelande. Un autre encore était trop jeune. Un autre enfin était au contraire trop vieux, si bien qu'il était inutile de le maquiller. Cependant que le chef du service du personnel convoquait d'autres Pères Noël possibles venus d'autres services, les dirigeants de la SBAV, s'étant réunis, cherchaient à creuser l'idée, à l'améliorer. Le service des relations humaines pensait que les paquets cadeaux destinés au personnel devaient leur être remis par le Père Noël lors d'une cérémonie collective. Le service commercial suggérait que l'on fît une tournée chez les commerçants. Le service publicitaire désirait surtout que le nom de la maison fût bien en évidence, peut-être en accrochant à un fil quatre ballonnets portant les lettres S-B-A-V. Tous étaient pris par l'atmosphère d'activité et de cordialité qui se répandait par la ville joyeuse et productive. Rien n'est plus beau que d'entendre couler autour de soi le flux des biens de ce monde et en même temps celui du bien que chacun souhaite aux autres. C'est cela et surtout cela, comme nous le rappelle le chant. Le son des cornemuses, c'est cela qui compte. Au magasin, les biens matériels et spirituels passaient par les mains de Marco Valdo en tant que marchandises à charger et à décharger. Et ce n'était pas seulement en chargeant et en déchargeant qu'il prenait part à la fête générale, mais aussi en pensant qu'au fond de ce labyrinthe d'une centaine de mille de paquets, l'attendait un paquet qui n'était qu'à lui seul, préparé à son intention par le service des relations humaines. Et plus encore, quand il faisait le compte de ce qu'il allait toucher à la fin du mois, y compris le 13e mois et les heures supplémentaires. Avec cet argent, il aurait pu, lui aussi, courir les boutiques et les grands magasins pour acheter, 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 et faire des cadeaux, faire des cadeaux, faire des cadeaux, comme le lui commandaient ses sentiments les plus sincères et les intérêts généraux du commerce et de l'industrie. Le chef du service du personnel entra dans le magasin tenant une fausse barbe à la main. Hé, toi, dit-il à Marco Valdo, voyons un peu de quoi tu as l'air avec cette barbe. Parfait, c'est toi le Père Noël. Monte au bureau avec moi, vite. On te donnera une prime spéciale si tu fais 50 livraisons à domicile par jour. Marco Valdo, déguisé en Père Noël, parcourait la ville sur la selle d'un triporteur à moteur, chargé de paquets enveloppés dans du papier multicolore, ficelés avec de jolis nœuds, et décoré de petites branches de gui et de houx. La barbe d'oie blanche le chatouillait bien un peu, mais elle protégeait sa gorge du froid. La première chose qu'il fit fut d'aller chez lui, car il ne pouvait pas résister à la tentation de faire une surprise à ses enfants. D'abord, se disait-il, ils ne me reconnaîtront pas, puis après, ils vont rire. Les gosses jouaient dans l'escalier. Ils se retournèrent à peine. « Salut, papa !» Marco fut plutôt désappointé. « Mais vous voyez pas comment que je suis habillé ?»« Et comment tu crois que tu es habillé ?» dit Pietruccio. « En Père Noël, non ?»« Et vous m'avez reconnu tout de suite ?»« Oh, c'est pas difficile !» !»« On a même reconnu M. Sigismondo, qui était pourtant mieux déguisé que toi. »« Et aussi le beau-frère de la concierge !»« Et le père des jumeaux qui habite en face !»« Et l'oncle d'Ernestine, c'est le cadenat !» Tous déguisés en Père Noël, demanda Marco Valdo. Et la désillusion qui perçait dans sa voix n'était pas seulement due au fait qu'il n'avait pas épaté les gosses, mais aussi au sentiment que le prestige de la SBAV en avait, en quelque sorte, pris un coup. Bah, tous comme toi, comme d'habitude, avec une fausse barbe. Bof, répondirent les gosses. Et lui tournant le dos, ils reprirent leur jeu. Il s'était trouvé que les services des relations publiques de beaucoup d'autres entreprises avaient eu en même temps la même idée. Et ils avaient recruté un grand nombre de personnes, pour la plupart chômeurs, retraités, camelots, afin de leur mettre la houppelande rouge et la barbe d'ouate. Les gosses, après s'être amusés les premières fois à reconnaître sous ces déguisements des gens de connaissance ou du quartier, en avaient bientôt pris l'habitude et n'y faisaient plus attention. On aurait dit que le jeu qui les occupait les passionnait vraiment. Ils étaient assis en rond sur un palier. On peut savoir ce que vous êtes en train de comploter. Laisse-nous tranquille, papa. Il faut qu'on prépare les cadeaux. Les cadeaux pour qui? Pour un petit pauvre. Il faut qu'on trouve un petit pauvre et qu'on y fasse des cadeaux. Qui c'est qui vous l'a dit? C'est écrit dans le livre de lecture. Marco Valdo était sur le point de leur dire, c'est vous les petits pauvres. Mais durant cette semaine, il s'était tellement persuadé d'être un habitant d'un pays de cocagne où tout le monde achetait, s'amusait, se faisait des cadeaux, qu'il lui semblait malséant de parler de pauvreté. Et il préféra déclarer « Il n'y a plus de petits pauvres !» Michelino se leva et demanda « Alors papa, c'est pour ça que tu ne nous apportes pas de cadeaux ?» Le cœur de Marco Valdo se serra. « Maintenant, dit-il très vite, il faut que je fasse des heures supplémentaires et puis je vous en apporterai. » « Tu les fais comment, tes heures supplémentaires ?» demanda Filippetto. « En livrant des cadeaux, » dit Marco Valdo. « À nous ?»« Non, à d'autres. »« Pourquoi pas à nous ? D'abord les autres ?» Marco Valdo tenta de s'expliquer. « Parce que je ne suis pas le Père Noël des relations humaines, moi. Je suis le Père Noël des relations publiques. Vous avez compris ?»« Non. » »« Tant pis. » Mais comme il voulait de quelque façon se faire pardonner d'être venu les mains vides, il décida d'emmener Michelino avec lui dans sa tournée de livraison. « Si tu me promets d'être bien sage, tu peux venir avec moi et tu verras ton père apporter des cadeaux chez les gens, » dit-il en enfourchant la selle de son triporteur à moteur. « Allons-y, peut-être que je trouverai un petit pauvre, » dit Michelino. Et il monta sur la machine en se tenant aux épaules de son père. Dans les rues de la ville, Marco Valdo ne faisait que rencontrer d'autres Pères Noël rouges et blancs, absolument pareils à lui, qui pilotaient des camionnettes ou des triporteurs à moteur, ou qui ouvraient les portes des magasins à des clients chargés de paquets, ou qui les aidaient à porter leurs achats jusqu'à leur voiture. Et tous ces Pères Noël avaient un air absorbé et affairé, comme s'ils étaient chargés de l'entretien de l'énorme machinerie des fêtes de fin d'année. Et Marco Valdo, absolument pareil à eux, consultait sa liste et courait d'une adresse à une autre, descendait de sa selle, triait les paquets du triporteur, en prenait un, le tendait à qui lui ouvrait la porte et scandait. « La SBAV vous souhaite un bon Noël et une heureuse année !» Là-dessus, il empochait un pourboire. Ce pourboire était parfois assez important et Marco Valdo aurait dû en être satisfait, mais il lui manquait quelque chose. Chaque fois, avant de sonner à une porte suivie de Michelino, il se réjouissait à l'avance à l'idée de l'émerveillement de celui ou de celle qui, venant lui ouvrir, aurait vu le Père Noël en personne devant lui. Il s'attendait à de la joie, à de la curiosité, à des remerciements. Et chaque fois, il était accueilli comme le facteur qui apporte quotidiennement le journal. Il sonna à la porte d'un luxueux hôtel particulier. Une gouvernante vint lui offrir. « Ah, encore un paquet ? C'est de qui ?» La SBAV vous souhaite... Bon, apportez-le par ici. » Et elle précéda le Père Noël dans un couloir qui n'était que tapis, tapisserie et vases de porcelaine d'un grand prix. Michelino, regardant de tous ses yeux, suivait son père. La gouvernante ouvrit une porte vitrée. Ils entrèrent dans une pièce au plafond si haut qu'il s'y dressait un sapin. C'était un arbre de Noël étincelant de boules de verre de toutes les couleurs et aux branches duquel étaient accrochés des cadeaux et des friandises de toutes sortes. Du plafond pendaient de lourds lustres de cristal et les plus hautes branches du sapin s'empêtraient dans ses pendeloques scintillantes. Sur une grande table étaient disposés des cristaux, de l'argenterie, des boîtes de fruits confits et de petites caisses de bouteilles. Les jouets, éparpillés sur un grand tapis, étaient si nombreux qu'on se serait cru dans une boutique de jouets. C'était surtout des engins électroniques compliqués et des modèles réduits de fusées spatiales. Sur un coin libre de ce tapis, un enfant d'environ 9 ans était allongé à plat ventre, l'air boudeur et ennuyé. Il feuilletait un livre illustré comme si tout ce qui l'entourait ne le concernait absolument pas. « Gianfranco, laisse-toi Gianfranco !» dit la gouvernante. « Tu as vu que le Père Noël est revenu avec un autre cadeau !»«
312 !» dit l'enfant sans lever les yeux de dessus son livre. « Qu'il le mette là !»
C'est le 312e cadeau qui arrive, dit la gouvernante. Gianfranco est si gentil qu'il les compte, qu'il n'en oublie pas un. Sa grande passion, c'est de compter. Marco Valdo et Michelino quittèrent la maison sur la pointe des pieds. Papa, ce petit garçon, c'est un petit pauvre ? Demanda Michelino.
Marco Valdo était occupé à mettre de l'ordre dans les paquets du triporteur et il ne répondit pas tout de suite. Mais au bout d'un instant, il se hâta de protester.
Pauvre ? « Qu'est-ce que tu me chantes là ? Tu sais qui c'est son père ? C'est le président de l'Union pour le développement des ventes des fêtes de Noël, le Commendatore !» Il s'interrompit parce qu'il ne voyait plus Michelino. « Michelino, où es-tu ? »
Le gosse avait disparu. S'il a dû voir passer un autre Père Noël, il l'aura pris pour moi et il l'aura suivi. Marco Valdo continua sa tournée, mais il était un peu inquiet et il lui tardait de rentrer chez lui. Chez lui, il trouva Michelino, bien sage, avec ses frères. « Dis donc toi, où t'as été ?»«
Je suis venu ici, chercher les cadeaux. »«
Ben oui, les cadeaux pour ce petit pauvre. »« Hein ? Qui ça ?»«
Celui qui avait l'air si triste, celui de la belle maison avec l'arbre de Noël. »«
Celui-là ? Mais quel cadeau tu pouvais donc lui faire, toi ?»«
Oh, on les avait bien préparés, 3 cadeaux enveloppés dans du papier d'argent. »
Ses frères intervinrent. On est allé les apporter tous ensemble. Si t'avais vu ce qu'il était content.
Que vous dites, dit Marco Valdo. Il lui manquait plus que vos cadeaux pour être content.
Oui, oui, nos cadeaux. Il a tout de suite déchiré le papier pour voir ce que c'était.
Et qu'est-ce que c'était?
Le premier, c'était un marteau. Tu sais, ce marteau, tout gros, tout rond, en bois.
Et alors?
Il sautait de joie, il a empoigné et il a commencé à s'en servir.
Quoi?
Il a cassé tous les jouets, les verres, les bouteilles, les assiettes. Puis il a pris le deuxième cadeau.
Qu'est-ce que c'était?
Un lance-pierre. Si t'avais vu ce qu'il était content, il a cassé toutes les boules de verre de l'arbre de Noël. Puis il s'est attaqué au lustre.
Assez, assez, je veux plus rien entendre.
Et le troisième cadeau?
On n'avait plus rien à lui offrir, alors on a enveloppé une boîte d'allumettes de cuisine dans du papier d'argent.
C'est le cadeau qui lui a fait le plus plaisir. Il disait, on me laisse jamais toucher aux allumettes. Il a commencé à les allumer et il a fichu le feu partout.
Marco Valdo se prit la tête dans les mains.
Je suis foutu.
Le lendemain, en se présentant à l'ASBAV, il sentait couver l'orage. Il s'habilla en Père Noël, vite, vite, chargea les paquets à livrer dans son triporteur, assez surpris que personne ne lui eût encore rien dit, quand il vit venir à lui 3 chefs de service. Celui des relations publiques, celui de la publicité et celui du bureau commercial. « Stop !» lui dirent-ils. « Déchargez tout de suite !»«
Ça y est !» se dit Marco Valdo, se voyant déjà mis à la porte.
« Vite ! Il faut remplacer les paquets !» dirent les chefs de service. « L'Union pour le développement des ventes des fêtes de Noël vient de lancer une campagne en faveur du cadeau destructif. »
« Comme ça !»
Tout d'un coup, commenta l'un d'eux. Ils auraient pu y penser avant.
C'est une idée subite du président, expliqua un autre. Il paraît que son fils a reçu des articles cadeaux d'un moderne japonais, je crois. Et pour la première fois, on l'a vu s'amuser.
Le plus important là-dedans, ajouta le troisième, c'est que le cadeau destructif sert à détruire des articles de toutes sortes. Exactement ce qu'il faut pour accélérer le rythme de la consommation et réanimer le marché. Tout ça en un rien de temps et à la portée d'un enfant. Le président de l'Union a vu s'ouvrir de nouveaux débouchés et il est fou de joie.
Mais cet enfant, demanda Marco Valdo avec une pauvre petite voix, cet enfant, il a vraiment détruit beaucoup de choses.
Oh, faire un calcul même approximatif est difficile, puisque la maison a brûlé.
Marco Valdo retourna dans la rue, illuminé comme en pleine nuit, et qui regorgeait de mamans, d'enfants, d'oncles, de grands-pères, de grands-mères, de paquets, de ballons, de chevaux à bascule, d'arbres de Noël, de Père Noël, de poulets, de dindes, de panettoni, de bouteilles, de joueurs de cornemuse, de ramoneurs et de marchands de marrons, qui faisaient sauter des poêlés de châtaignes sur leurs fourneaux ronds, noirs et ardents.
Et la ville semblait plus petite, pelotonnée dans une boule de verre lumineuse, ensevelie au cœur sombre d'une forêt, parmi les troncs centenaires des châtaigniers et sous un immense manteau de neige. Quelque part dans l'ombre, on entendait le hurlement d'un loup. Le gîte des lièvres était enfoui sous la neige, dans la chaude terre rouge et sous une couche de boc de châtaigne. Il en sortit un levreau blanc sur la neige. Il remua les oreilles, courut sous la lune, mais il était blanc et on ne le voyait pas. C'était comme s'il n'existait pas. Seules ses pattes laissaient dans la neige une légère empreinte pareille à de petites feuilles de trèfle. On ne voyait pas le loup non plus, parce qu'il était noir et restait dans l'ombre noire de la forêt. On voyait seulement ses dents blanches et pointues quand il ouvrait la gueule.
il y avait une ligne où finissait le bois tout noir et où commençait la neige toute blanche. Le levrault courait d'un côté et le loup de l'autre. Le loup voyait les empreintes du levrault et les suivait, mais en restant toujours sur le noir pour ne pas être vu. Le levrault devait se trouver à l'endroit où les empreintes cessaient, et le loup sortit du noir, ouvrit toute grande sa gueule rouge aux dents pointues et mordit le vent. Le levrault était un peu plus loin, invisible. Il se frotta l'oreille d'une patte et se sauva en bondissant. Est-il ici? Est-il là? Non, il est peut-être un peu plus loin. On ne voyait plus que l'étendue de neige blanche. Blanche comme cette page. Fin de la deuxième piste de la troisième et dernière cassette, page 181, et par conséquent, fin du livre Marco Valdo ou les saisons en ville, par Italo Calvino. Ce livre a été enregistré du 14 au 18 mars 1989, et j'espère qu'il t'aura plu autant qu'à moi. Au revoir.